La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Catherine Goliot. Vous publiez « Les maîtres du bonheur » aux éditions du CERF. Bonjour.
Bonjour.
Alors, de nombreux livres de développement personnel promettent le bonheur et finalement, vous nous montrez à travers ce livre qu'il y a bien plus intéressant que tous ces coachs qui prospèrent en librairie et sur les réseaux sociaux. Il y a les philosophes, mais aussi les grands sages de l'humanité, sans oublier les grandes religions que vous avez incluses dans ce livre. Comment est né cet ouvrage, Catherine Goliot ?
Et comme vous le dites très bien, d'une observation qui était que ce qu'on appelle le développement personnel est devenu depuis une trentaine d'années un véritable business et que finalement, son argumentation est souvent extrêmement pauvre, premier point, et que deuxièmement, on a tendance parfois, notamment beaucoup aux États-Unis, à transformer en injonction l'obligation d'être heureux. Et je me suis dit, mais finalement, la quête du bonheur est une quête quasiment millénaire. On retrouve cette notion de bonheur chez les penseurs de l'Antiquité, dans toute la plupart des religions en tout cas. Et finalement, est-ce qu'il est vraiment très intéressant de vouloir en permanence réinventer le fil à couper le beurre, alors que nous avons la chance de bénéficier d'une culture de plusieurs millénaires et de la pensée, des réflexions, de la quête d'un certain nombre de sages qui nous nourrissent depuis le début, en fait, parce que des penseurs comme Platon, Aristote, je dirais qu'ils sont en nous, même si nous ne les avons pas lus, puisque nous pensons en fonction d'eux les trois quarts du temps. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller directement au texte et de voir ce que, aussi bien les penseurs de la philosophie antique que les religions, mais aussi les penseurs modernes, comment ont-ils abordé le bonheur, quelles sont les questions qu'ils se sont posées? Et quelles leçons, nous, aujourd'hui, nous pouvons en tirer, sachant que, comme eux, nous sommes obsédés par ce besoin de bonheur. Et pourquoi sommes-nous obsédés par ce besoin de bonheur? Parce que nous avons conscience que la vie est très courte. Nous avons conscience que si nous considérons cette vie qui est difficile, même si nous avons des petits moments de joie, même si nous construisons des empires, nous sommes tous confrontés au problème de la mort, eh bien, le bonheur est une quête essentielle parce que le bonheur, c'est finalement peut-être la réponse que nous avons à cette angoisse existentielle. Eh bien, qu'est-ce que ces sages peuvent nous apporter ?
Alors, vous allez directement au texte en publiant des extraits assez longs d'ouvrages de philosophie. Et même si on n'a pas fait de philosophie au-delà de la terminale, on a l'agréable surprise de tout comprendre. Certains textes écrits il y a des centaines d'années semblent avoir été écrits aujourd'hui.
Oui, parce que d'abord dans l'Antiquité ou même à la Renaissance ou à l'époque moderne, en général, les philosophes ne jargonnaient pas ou pas trop. Donc, il est facile de lire Platon, il est facile de lire Montaigne, il est facile de lire Épictète ou Marc Aurèle ou Épicure. Ce sont des textes très simples à lire et qu'il est vrai que beaucoup d'élèves de terminale ou même avant ou après sont rebutés en disant « oui, mais moi, la philo, finalement, c'est comme l'opéra, c'est pas ma culture, je ne sais pas, je ne comprends pas, etc. » Mais enfin, tout le monde n'a pas besoin de lire forcément Heidegger pour comprendre ce que veut dire Platon en parlant du bonheur ou ce que veut dire Aristote en parlant du bonheur.
On va parler tout à l'heure de Montaigne, écrivain essentiel, mais on va commencer par le début avec le père de la philosophie, Platon. Il insiste sur l'importance de l'âme chez l'être humain. Vous dites que pour lui, le vrai bonheur est un bien transcendant, difficilement accessible au commun des mortels. Que nous dit Platon sur le bonheur et pourquoi avoir choisi une citation du Timée qui est considérée comme son œuvre capitale ?
Platon ne s'intéresse pas en soi au bonheur, il s'intéresse à l'idée et à la vertu et au bien. Et en cela, il est tout à fait représentatif de cette pensée de l'Antiquité qui considère moins l'homme à un instant T que l'homme sur un chemin. Et comment l'homme peut se transformer pour accéder à l'idée, au bien, à Dieu en fonction des auteurs. le vocabulaire va être différent, mais la notion de bonheur, c'est aussi la notion de vertu, d'amélioration de l'individu. Et donc, il fallait commencer par Platon. Socrate nous dit « connais-toi toi-même », mais Platon lui va beaucoup plus loin en disant « mais comment arriver à une sorte d'idéal où l'homme pourrait transcender finalement ce qu'il est ?» Et je commence par Platon, mais juste après Platon, il y a Aristote. Et Aristote, lui, est beaucoup plus un observateur de la vie qu'un... Et il va remettre en cause cette primauté de l'idée pour regarder le monde tel qu'il est et dire, mais finalement, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Le bonheur ne peut s'obtenir que par la vertu. Mais cette vertu, ce bonheur-là, ne peut être qu'un bonheur politique, parce que l'homme est un animal politique, et que donc il ne peut se réaliser que dans la cité et l'attention à l'autre et à l'attention à la collectivité. Il était important d'avoir ces deux philosophes dès le départ, parce que c'est eux qui vont poser les fondamentaux de notre conception du bonheur en Occident. Vous avez pu le constater, l'essentiel des textes qui sont dans cette anthologie, parce que c'est une anthologie, sont des textes qui nous ont modelés, nous, occidentaux. Et ça, c'est vraiment très important. Tout le monde n'a pas la même conception du bonheur. Tout le monde n'a pas la même conception du bonheur, ni au niveau spatial, ni au niveau historique.
Alors Catherine Goliot, parmi les textes que vous citez, il y a aussi des extraits de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament avec l'Évangile de Jean, il y a un extrait du Coran, vous évoquez le bouddhisme, les grands textes religieux peuvent apporter des réponses sur le bonheur, quelles que soient nos croyances.
Oui, bien sûr, le bonheur, et je crois que c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cette anthologie, c'est que le bonheur c'est à la fois ce que nous sommes par rapport à nous, et peut-être que la plus grande leçon c'est « Je ne peux être heureux qu'à partir du moment où je m'écoute, connais-toi toi-même, mais aussi écoute-toi et essaie de trouver une voie qui correspond à tes aspirations. » Mais en même temps, nous sommes des animaux politiques, nous vivons dans la cité, et nous sommes constamment confrontés à un certain nombre d'injonctions qui nous viennent soit directement de la cité laïque, l'organisation, la Respublica, soit des religions. Les religions ont eu un impact fondamental sur notre conception du bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est comment vais-je me sentir bien? Comment puis-je me sentir bien? Alors, est-ce que je peux me sentir bien maintenant? Est-ce que je peux me sentir bien avec les autres? Est-ce que je dois me sentir bien uniquement si je réponds à la loi de Dieu? Ce Dieu que j'imagine transcendant, surpuissant, au-dessus de moi. Et dans ces conditions, quand est-ce que je suis heureux? Est-ce que je peux être heureux maintenant ou est-ce que je ne pourrais être heureux qu'après? Il est très intéressant, par exemple, de se dire que les Grecs païens pensaient que finalement, on ne peut dire qu'un homme est heureux qu'une fois qu'il est mort. Pourquoi? Parce que justement, il y avait cette notion de perfectibilité, de chemin sur la vertu, et puis aussi d'accident de la vie, de fatalité, qui faisait que finalement, on peut être très heureux aujourd'hui et ne plus l'être demain. C'est l'histoire d'Œdipe. Œdipe est très heureux avec sa femme et ses enfants, jusqu'au moment où il se rend compte que si la peste tombe sur la cité de Thèbes dont il est le roi, c'est parce qu'il a commis une faute majeure. Sans le savoir, il a tué son père et épousé sa mère. Donc c'est cette fatalité qui vient d'ailleurs, qui est d'ailleurs dans le mot malheur, le mot bonheur, c'est l'heure bonne, c'est-à-dire l'heure qui reçoit la destinée positive. Qu'est-ce qu'apportent les religions? Les religions, d'abord, elles apportent une réponse par rapport à la mort, en disant, finalement, quel est le sens de la vie? Le sens, dans les religions monothéistes, le sens de la vie, c'est de répondre à la loi de Dieu. Et qu'est-ce que nous dit Dieu? Notamment dans le christianisme, il nous dit que nous serons tous élus, que nous allons tous ressusciter, comme le Christ a ressuscité. Mais bien évidemment que le bonheur, c'est une fois qu'on sera mort. Donc le bonheur ne peut plus, ou peut exister, mais le vrai bonheur, c'est après le jugement dernier. Qu'est-ce que va apporter le christianisme? Je prends l'exemple du christianisme parce qu'il est fondamental pour notre civilisation, mais je pourrais parler aussi du judaïsme ou de l'islam. Mais prenons le cas du christianisme qui a une importance fondamentale, parce qu'à partir du moment où il devient la religion officielle de l'Empire, eh bien, les cultes païens vont être progressivement supprimés et on va penser différemment. On peut dire qu'à partir du moment où l'Église impose sa loi, eh bien, le bonheur devient une notion post-mortem. Et toute la vie de l'individu doit être organisée pour répondre à la demande de Dieu, qui est une demande aussi de vertu, aussi de bien, de charité, d'amour de l'autre, etc. Mais le vrai bonheur, on ne le ressentira qu'une fois que l'on sera mort, quand on sera proche de Dieu. Donc, en ce sens, la religion est très importante.
Alors, vous citez évidemment Montaigne, Catherine Goliot, un auteur qui, dans ses essais, a quasiment écrit sur tous les sujets, l'amitié, le pouvoir, la vieillesse. Il fait partie de ces écrivains qu'on a plaisir à lire, mais surtout à relire, car c'est une découverte permanente. Lire Montaigne, c'est peut-être déjà un moyen d'être heureux. Est-ce que l'idée du bonheur traverse toute son œuvre? Et quel est le secret de Montaigne pour être heureux?
Bien, le secret de Montaigne, qui est quand même un auteur que je recommande à tous les lecteurs, parce que c'est une merveille, une pure merveille, il est gouléant, c'est-à-dire qu'il vous donne la joie. Déjà, de le lire, c'est une joie. Mais ce qui traverse toute l'œuvre de Montaigne, c'est l'amour de la vie. C'est un homme qui, personnellement, je trouve absolument exceptionnel, parce qu'il a vécu pendant les guerres de religion, il a été confronté à la maladie, à l'épidémie. Il a pris énormément de responsabilités puisqu'il a été le maire de Bordeaux, mais il a aussi été un négociateur pour le roi auprès des protestants et des catholiques. Ça s'est d'ailleurs pas très bien passé. C'était un homme extrêmement cultivé qui avait beaucoup lu. Et c'est quelqu'un qui sait se composer une vie où il y a à la fois l'amour de l'étude, une grande empathie avec les autres, l'amour du corps, une grande liberté. Et le texte que j'ai choisi, c'est un texte donc qu'il écrit à la fin de sa vie, où il est très malade. Il est très malade, il souffre beaucoup. Il dit, mais malgré tout ça, j'aime la vie. Et je crois que c'est l'une des leçons plus belles que nous aient laissées ces sages ou ces penseurs ou ces poètes, ces artistes qui sont présents dans ce livre. On peut tout imaginer pour le bonheur, mais il faut quand même avoir en tête que la vie, elle est là. Alors évidemment, il y a le vieil adage, mais parfois il faut respecter les adages qui est la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Montaigne nous montre que cette vie, il faut la sentir à toutes les minutes, il faut l'apprécier. Parfois, il faut effectivement la supporter. Mais le bonheur, c'est peut-être cette leçon-là, c'est-à-dire être capable de ressentir le plaisir d'être dans la nature, dans une forêt, le plaisir de la marche, le plaisir de lui monter à cheval, le plaisir d'une cavalcade, le plaisir de discuter avec des amis, le plaisir d'aimer, le plaisir d'être avec des amis. Bon, vous connaissez tous ce texte magnifique sur la Boétie, où il dit, mais pourquoi est-ce que je l'aimais, lui? Ben parce que c'était lui et parce que c'était moi. Mais c'est surtout parce qu'il avait entre eux une capacité de communication qu'ils ont travaillé, ça n'a pas été donné. Ils ont travaillé cette capacité de communication, d'échange, d'amitié. Mais c'est ça aussi qui faisait son bonheur. Mais malgré ça, malgré la perte de cet ami, malgré tous les morts qu'il a pu voir, malgré toutes les souffrances qu'il a endurées, il a dit « j'aime la vie ». Et c'est en cela que je trouve qu'il est absolument fondamental.
Catherine Goliot, il y a peu de femmes dans votre ouvrage, puisque les femmes sont de toute façon peu nombreuses parmi les philosophes avant le 19e et le 20e siècle, mais vous nous donnez à lire un texte d'Émilie du Châtelet, qui était non seulement philosophe, mais aussi scientifique. On sait que Voltaire, son compagnon, l'admirait. La définition du bonheur pour elle, c'était l'amour.
Pour Émilie du Châtelet, c'est plus que l'amour. Le bonheur, c'est la passion. C'est ce sentiment que vous êtes vivant. Et pour elle, ce sentiment d'être vivante, elle le ressentait évidemment dans l'étude, et elle le dit dans ce texte. Elle aime l'étude, elle aime la connaissance, elle a une vraie libido de la connaissance et de la découverte. Mais la passion, sentir qu'elle aime, plus que d'être aimée, c'est sentir qu'elle aime. C'est absolument extraordinaire, et c'est le piment de la vie, et c'est ce qu'elle recommande. Et elle dit, en gros, oui, c'est formidable d'être très heureux, que tout aille bien, que l'homme qui vous aime ou que vous aimez vous aime, bref, tout va bien, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie? Qu'est-ce qu'on s'ennuie, en fait? Ça n'a pas de piment. Et alors, ce texte est passionnant à plusieurs titres. Le premier d'abord, c'est qu'elle va à l'encontre d'une tradition de la définition du bonheur venue des stoïciens et notamment de Cicéron, qui est aussi présent dans ce livre et qui parle justement du bonheur comme « si vous voulez être heureux, rejetez les passions, protégez-vous, protégez vos sentiments, parce que vous allez vous exposer à la souffrance ». Et ça, c'est une tradition très très forte dans la manière de concevoir le bonheur. Elle, cette femme, elle dit « non, non, c'est exactement le contraire, exposez-vous, acceptez d'avoir mal, mais le ressenti que vous allez avoir est tellement extraordinaire, vous serez tellement vivant que c'est comme ça que vous allez être heureux. Acceptez la tempête, recherchez la tempête. Et donc ça, c'est quand même en soi extraordinaire. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'elle ose le dire, comme vous l'avez très bien dit. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont la possibilité d'écrire, de s'exprimer jusqu'à la fin du 18e, 19e siècle. Elle, c'est une intellectuelle d'un niveau exceptionnel. Elle est celle qui a introduit Newton en France. Elle est celle qui l'a traduit. Donc Voltaire avait travaillé avec elle, mais c'est elle qui était capable de lire, de comprendre les mathématiques et donc qui a fait cet énorme travail. Elle ose donc le dire, donc elle prend un risque énorme, de même qu'elle avait pris un risque en s'affichant avec Voltaire alors qu'elle était mariée. Et donc, à ce titre-là, je trouve que c'est une des premières féministes sans l'être, c'est-à-dire qu'elle ne se revendique pas du tout comme féministe, mais elle ose vivre sa passion et vivre sa passion au grand jour et donc s'affirmer en tant que femme dans le monde littéraire. Et ça, c'est exceptionnel, c'est absolument exceptionnel. Et en cela, c'est un être absolument remarquable.
Alors, dernière question, Catherine Goliot. Quand on va en librairie, il y a souvent un rayon important de philosophie. Il y a quelques philosophes vivants qui publient des best-sellers. Je pense à André Comte-Sponville. Comment expliquez-vous le goût des Français pour la philosophie ?
André Comte-Sponville a écrit une œuvre absolument remarquable sur le bonheur. C'est un grand lecteur de Montaigne. Il fait partie de ces gens qui... Lui est athée, se revendique comme athée. Et il est de ceux qui disent... Mais, soyez heureux, soyez vivants aujourd'hui. Renoncez aux chimères, renoncez aux faux rêves qui vous font vivre demain. Vivez aujourd'hui. Profitez de la vie aujourd'hui. C'est cela aussi, c'est ce discours-là, à mon avis, qui explique son grand succès et son immense lisibilité et sa très grande clarté. Alors, il y a beaucoup aujourd'hui d'auteurs qui parlent de la philosophie, qui font en fait de la vulgarisation très intelligente et de très bonne qualité sur la philosophie, comme sur la religion d'ailleurs, et parfois ce sont même les mêmes. Vous avez des gens comme Frédéric Lenoir qui vous parle de Spinoza aussi bien que de l'histoire des religions. Et je pense que ce goût pour la philosophie et la religion, qui n'existe pas de la même manière par exemple aux États-Unis, il est lié à d'abord, je dirais, une tradition culturelle. Même si les gens le lisent moins, il y a une tradition dans notre pays pour la lecture, pour la culture. Nous avons tous le sentiment que nous bénéficions d'un patrimoine remarquable. Et puis, il y a aussi des interrogations. C'est, par exemple, dans le cas du bonheur, c'est cette interrogation sur le sens de la vie et sur l'orientation qu'on lui donne. Sachant que même si nous vivons de manière relativement très confortable par rapport à nos ancêtres, par rapport à nos aïeux et par rapport aussi à beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde, ben, il y a un sentiment de mal-être très puissant et les gens espèrent, enfin, je pense, hein, que la philosophie peut leur apporter des réponses et je pense qu'ils ont complètement raison. Il y a des auteurs qui peuvent effectivement vous apporter, avec une très grande clarté, des réponses, des éléments de réflexion qui peuvent vous permettre d'avancer.
Merci Catherine Goliot et je recommande à tous les auditeurs de la bibliothèque de Radio-Orient votre anthologie, ce très beau livre, Les Maîtres du Bonheur aux éditions du Cerf. Merci.
C'était la bibliothèque de Radio-Orient avec Loïc Barrière.